À ce jour, j'espère enfin que vous réalisez que vous êtes des êtres à habitudes. C'est le cas ou pas ? Vous avez tous des habitudes. Parce que c'est important que vous le sachiez, vous le compreniez, que vous le voyez, que vous l'expérimentez. Parce que c'est dans les habitudes qu'il y a une formation ou une déformation de qui on est, de notre personne. C'est dans les habitudes, c'est dans le quotidien que l'on change dans notre vie. Et donc, si on le sait, si on en est conscient, il faut porter une attention particulière aux habitudes spirituelles. Et donc, je continue ma série sur les habitudes spirituelles, sur les habitudes de la grâce. Et donc, nous voilà rassemblés cet après-midi dans la première habitude dont je vous avais parlé le mois dernier, c'est-à-dire l'adoration collective ou le culte du dimanche, comme vous préférez. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de la deuxième habitude de la grâce, la lecture de la parole, une évidence, j'ai envie de dire. La lecture de la parole. Les Juifs, ils ont la Torah, les musulmans, ils ont le Coran. Nous, on a quoi ? Ben, la Bible. Les chrétiens lisent la Bible. Et en fait, pour les chrétiens, il n'y a rien de plus banal, il n'y a rien de plus normal, normalement, que de lire la Bible, n'est-ce pas ? On a appris ça lorsque l'on a grandi dans l'église, dans l'école du dimanche. Et où que vous soyez dans votre cheminement avec le Seigneur, je ne sais pas où vous en êtes, vous soyez à un stade pas très avancé, ou que vous soyez un chrétien affirmé, lire la Bible, je le répète ici, c'est une activité essentielle, c'est crucial, c'est une question de vie et de mort, spirituelle bien sûr. Mais contrairement aux musulmans ou aux juifs, la Bible c'est pas juste un livre sacré. Pour nous, croyants, chrétiens, disciples de Christ, évangéliques, la Bible c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et donc si on suppose effectivement que la Bible c'est la parole de Dieu, que le créateur de l'univers, celui qui a créé la terre, le ciel et tout ce qui y contient, si on croit que le créateur nous parle à travers les écritures, écrites par des hommes inspirés par le Saint-Esprit, alors on doit porter une attention particulière à la parole. C'est important. Et on se doit de participer à cette activité de la lecture de la Bible. Cependant, j'ai envie de dire que lire la Bible, c'est peut-être une habitude assez contraignante, plus compliquée qu'on le pense à exercer. Logiquement, on devrait dire que, ben, en tant que chrétien, c'est normal de lire sa Bible, de passer du temps dans la parole du Seigneur, de la méditer profondément. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour vous ? Est-ce que c'est le cas ? Si c'est pas le cas, pourquoi ? Pourquoi tant de chrétiens ont tant de mal avec la lecture de la Bible ? Pour certaines personnes, ben, c'est compliqué de lire, ou ils aiment pas lire, que ce soit la Bible ou pas. Pour d'autres, ben, ils le justifient par manque de temps ou le planning est trop surchargé. Après tout, ben, la Bible, c'est quoi ? C'est un recueil de différents livres. Il est écrit il y a des milliers d'années. Peut-être que c'est pas pertinent pour nous, parisiens, parisiennes du 21e siècle. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on est censé faire de ce texte, de ce livre ? Après tout, il y a tous ces théologiens, tous ces pasteurs qui débattent sur des textes qui sont parfois interprétés d'une manière et parfois interprétés d'une autre manière. Alors, qu'en est-il pour nous, croyants de base, concernant la Bible ? Quelle attitude on est censé adopter ? Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes simplement indifférents face à la parole de Dieu ou à la Bible. Peut-être que parmi vous se trouvent des gens qui se sentent découragés ou parfois même qui se sentent coupables de pas prendre autant de temps qu'ils aimeraient à lire la parole. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre cas. Peut-être que parmi vous se trouvent aussi des gens qui sont réjouis à l'idée de lire la parole de Dieu. Et peu importe, une fois de plus, où vous vous situez dans ce spectrum, dans toutes ces situations-là, je veux que cet après-midi, vous soyez franc et honnête avec vous-même vis-à-vis de cette activité-là. Et ma prière pour vous, c'est que vous soyez vraiment intègre envers le Seigneur et envers vous-même. Que vous ayez un cœur ouvert, que vous soyez vraiment ouvert cet après-midi à ce que je vais vous dire, à ce que le Seigneur a à vous dire, en espérant que vous ayez un appétit pour sa parole. Parce que sa parole, elle est assimilée à une nourriture qui est solide, qui est bonne, qui est saine. Et donc, si l'on veut être en bonne santé spirituelle, une fois de plus, c'est crucial d'acquérir cette bonne habitude spirituelle avec ce régime alimentaire qui est bon et sain pour notre âme et pour notre esprit. Et si c'est si bon et si doux, comme le psalmiste le prétend quand il dit dans Psaume 119, il dit la chose suivante. Il dit que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Alors je prie que vous soyez, que vous ayez aussi, vous puissiez avoir cet avant-goût lorsque vous prenez la parole. Et donc, cet après-midi, je vais diviser mon message en trois parties. Premièrement, versets 13 à 26. La parole, c'est pas simplement de l'intellect, mais c'est aussi une illumination. Ensuite, deuxième partie, je vais vous parler du fait que c'est pas simplement des principes, mais c'est aussi une histoire. Enfin, c'est pas simplement une pratique, mais c'est une intimité, la parole. Premièrement, c'est pas simplement de l'intellect, mais c'est aussi une illumination. Je vais vous lire les versets, on va relire les versets 13 à 24. Lisons ensemble. Ce même jour, deux disciples se rendaient dans un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et en crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Cléopas, c'était un bon juif qui était familier avec les Écritures. Il savait ce que le Messie, annoncé par les prophètes, était censé faire. Il savait. Cléopas était un bon juif. Et lorsque Jésus est venu, Cléopas a vu, entendu les actions de Jésus, comme tout le monde à son époque. Et qu'est-ce qu'il a fait entre la parole qu'il connaissait en tant que bon juif et les actions qu'il a vues, entendues? Il a fait un rapprochement. Il a fait une logique. Il a entendu qu'un Messie devait venir accomplir des prophéties. Et il a vu Jésus les accomplir. Il a lu. Il a connecté dans sa logique avec son intellect. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus lui fait un reproche ici, versets 25 et 26. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, dont est à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» En clair ici, qu'est-ce qui se passe dans Luc 24? Les femmes ont découvert, sont allés au tombeau, ils ont découvert le tombeau vide. Et donc, les femmes sont allées annoncer aux autres disciples que des anges leur annonçaient que Jésus était vivant. C'est ce qu'elles sont allées dire aux autres disciples. Et donc, ces autres disciples sont allés aussi dans le tombeau pour voir ce que on dit les femmes était vrai ou pas, en espérant, voir Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas vu Jésus. Et donc, Cléopas et son compagnon ici sont donc tristes pour cette raison, parce qu'en fait, ils ont entendu que les autres disciples n'ont pas vu ce Jésus ressuscité annoncé par les anges qu'ont rencontré les femmes. Et donc, tout d'un coup, pour eux, c'était une fake news, d'une certaine manière. Et c'est pour ça, ici, Jésus reproche la lenteur de leur foi, la lenteur de leur cœur à croire malgré l'annonce de la mort, de la résurrection du Messie dans les Écritures, par les prophètes. Et ce qui est incroyable, c'est que cette prophétie de ce Messie ressuscité est littéralement en train de se dérouler devant leurs yeux. Et malgré leur connaissance intellectuelle, ils ne le voient pas. Il ne reconnaît pas Jésus. L'intellect, le cerveau, c'est utile pour la connaissance de Dieu, mais c'est futile si ce n'est pas accompagné d'une illumination divine, si ce n'est pas éclairé par un esprit, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous souvenez tous de votre classe de SVT? Vous êtes dans la salle de labo et vous êtes tout excité parce que c'est le jour J. Le grand jour que tout le monde attend, c'est-à-dire la disséquer la grenouille ou le cœur de poulet ou je sais pas, enfin ça dépend du collège. Ce jour-là, on s'en souvient tous, n'est-ce pas? On s'en souvient tous. On met le masque, on met les gants, on sort le scalpel. Et qu'est-ce qu'on fait? On suit scrupuleusement les instructions de la prof ou du prof de SVT. Et on essaie de disséquer ce qu'on a devant nous. Et de certaine manière, dans la Bible, c'est pareil, j'ai envie de dire. C'est important d'étudier son contexte, son auteur, l'arrière-plan historique, l'arrière-plan culturel, de faire une étude de mots, etc., etc. On se doit d'utiliser notre intelligence et notre cerveau. C'est important. Mais la différence entre disséquer une grenouille morte et analyser ou disséquer la parole de Dieu, c'est que lorsque l'on parle de la Bible, on parle d'une parole qui est vivante, active et tranchante, contrairement à une grenouille morte. Et en fait, ça implique une chose, lorsque on prend la Bible, tous les matins ou tous les soirs, ça implique quelque chose d'important. Ça implique que c'est la parole, lorsque l'on ouvre la Bible et lorsque l'on l'étudie, on se doit, comment vous expliquer ça? Au lieu d'essayer de toujours analyser la Bible, on se doit d'adopter une attitude inverse, une attitude humble. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dissèque. C'est nous qui passons sous le microscope de Dieu lorsque nous lisons la Bible. C'est nous qui sommes mis en lumière lorsque Dieu nous révèle. Et c'est important d'adopter cette posture-là. Parce que lorsque l'on ouvre la parole, on a cette tendance à voir tout analyser, à vouloir connaître les choses et à se dire « ça veut dire ci, ça veut dire ça, il faut l'interpréter de cette manière-là ». Et cela veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'implications. On peut être le plus grand intellectuel, on peut être le plus grand théologien, le plus grand pasteur, le plus grand académicien, tout ce que vous voulez. On peut comprendre toutes les subtilités bibliques et théologiques qui soient, aussi compliquées qu'elles soient. Mais si on ne laisse pas la parole nous toucher, nous transpercer, nous analyser, nous disséquer, ça sert absolument rien de savoir, ça sert absolument rien de lire la Bible de cette manière-là. Et c'est pour ça, c'est absolument crucial d'adopter une attitude d'humilité lorsque on ouvre les paroles, la parole devant nous. Pas simplement dans l'intellect qui permet la compréhension de la parole de Dieu, mais aussi une illumination pour croire. Pour croire. Il est écrit, par manque de foi, que Cléopas et son compagnon, que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus, par manque de foi. Dans Éphésiens, Paul écrit la chose suivante. Il écrit, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Dans Éphésiens 1, 17-18. Et donc, avoir cette illumination divine requiert une chose. Je vous rappelle, ça requiert de l'humilité. Ma question pour vous cet après-midi, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous laisser disséquer par la parole, à passer sous le microscope de Dieu, d'être mis sous la lumière. Je suis sûr que vous aimez tous la nourriture japonaise. Et vous savez, au Japon, avant de manger, ils disent une chose. Exactement, Francis. Itadakimasu. Vous savez ce que ça veut dire, itadakimasu? Ça veut dire « je reçois humblement ». Pourquoi ils disent ça, les Japonais? En fait, ils disent ça pour bénir les gens qui ont préparé le repas. Ils sont reconnaissants. Vous êtes peut-être trop occupés dans la vie. Vous n'êtes peut-être pas intéressés pour lire la parole de Dieu. Mais est-ce que vous êtes prêts à vous humilier pour humblement recevoir la nourriture spirituelle de Dieu? Si on est assez humble et que nous avons le cœur ouvert avec cette faim et cette soif de la parole qui éclaire notre esprit, non seulement on peut reconnaître la bonté des textes et sa beauté, et non seulement on sera grassement rassasié. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Donc pas simplement de l'intellect, mais une illumination. Mais oui, je passe ma deuxième partie. Pas simplement des principes, mais aussi une histoire. Verset 37. Jésus fait un reproche aux deux disciples ici. Mais il ne reste pas à ça. Il reste pédagogue. Verset 27, lisez avec moi. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il, Jésus, leur expliqua dans toutes les écritures de ce qui le concernait. Donc, pendant leur marche qui séparait de Jérusalem à Emmaüs, il y avait environ une dix-douzaine de kilomètres qui les séparaient des deux villes, Jésus prend le temps de leur expliquer les textes de Moïse et des autres prophètes. Il leur raconte son histoire personnelle, sa propre histoire. Imaginez-vous, vous faites une étude biblique avec Jésus lui-même. Oui, imaginez-vous cela. Que pendant une dizaine de kilomètres, vous fassiez une étude biblique avec Jésus. Pendant un moment, je prétends être Jésus. Je vais me mettre à sa place pour vous essayer de raconter ce qu'il aurait pu raconter à ses disciples via les textes de Moïse et des autres prophètes. Et voici le récit dans lequel Dieu nous invite à participer. C'est peut-être une histoire que vous connaissez depuis le début parce que vous avez grandi à l'église, mais c'est une histoire, une fois de plus, qui nous invite à participer. Au commencement, Dieu créa. Il créa le monde, il créa l'univers, il créa les êtres vivants, l'humanité, en leur donnant des recommandations. Mais qu'est-ce qui se passait? Adam et Ève n'ont pas suivi ces recommandations parce qu'ils sont tombés dans le péché. Et donc, à partir de ce moment-là, la violence, le mal, la mort est entrée, se sont répandues. L'injustice, la débauche, toutes ces choses se sont répandues sur la terre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, en constatant les dégâts de l'humanité, il a actionné son projet de rédemption. Son projet de rédemption, il a commencé par Abraham, le grand Abraham, promettant que Abraham deviendrait une source de bénédiction et une source de bénédiction pour toutes les nations. Et donc, Dieu a commencé ce projet avec un tout petit peuple qui s'appelait Israël. Israël, à l'époque, était esclave dans le grand empire, dans le grand pays qui était l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré toute sa gloire, toute sa puissance en les délivrant de ce grand maître qu'est l'Égypte. Et lors de leur escapade dans le désert, les Israélites se sont rebellés, se sont plaints multiples fois contre Dieu. Et malgré leur plainte, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a continué à subvenir le besoin. Et surtout, il a accompli sa promesse. Au bout d'un moment, Dieu les a amenés dans la terre promise. La terre promise où coule le lait et le miel. Une fois de plus, son peuple a désobéi au commandement. Il leur a été infidèle. Ils se sont rebellés. Ils ont demandé à devenir un royaume comme les autres pays autour d'eux. Et en faisant ça, ils ont clairement, ouvertement rejeté l'autorité de leur Seigneur. Et donc, naturellement, Israël a continué à être infidèle envers Dieu, malgré les nombreux avertissements des prophètes. Et c'est ainsi qu'il en a eu assez. Il en a eu marre. Et donc, il a arrêté de leur communiquer, de leur parler pendant 400 ans. Et donc, après 400 ans, il a pour toujours actionné son projet de rédemption finale. Il a envoyé son fils. Pourquoi faire? Pour faire ce que les hommes et les êtres humains sont incapables de faire. Il s'est substitué à nous, afin que nous puissions recevoir ce qui est à lui. Jésus a échangé sa vie pour la nôtre, pour la vôtre. Celles et ceux qui mettent leur confiance en Jésus participent à ce récit. À ce récit, à cette histoire d'une rédemption finale, totale, complète. Le Nouveau Testament proclame ce message au monde entier de ce que Jésus a accompli et va accomplir. Ce message dans lequel un roi meurt pour son peuple. Un roi meurt pour son peuple, pour les sauver. Et pour qui ses sujets étaient prêts à donner leur vie grâce à ce message et à cette histoire. Cette histoire, vous la connaissez. Et ça doit être vaguement dans ces termes que Jésus leur a expliqué les textes, les Écritures, le concernant. Et nous-mêmes, on est conviés à prendre part à ce récit, à cette histoire. Le monde, notre société, nous incite à tellement de récits différents dans lesquels on devrait prendre part pour se sentir valorisé, pour se sentir estimé, vivre pour l'amour, la justice. On a des combats qu'il faut mener, la liberté, le plaisir, toutes ces choses-là. Mais Dieu nous invite à un projet, à une histoire bien plus grande que toutes ces choses, qui inclut notamment l'amour, la justice, la liberté, le plaisir, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous donne accès à cette histoire. Et plus nous lisons, plus nous voulons participer à ce projet de rédemption et à cette histoire, une fois de plus dans lequel on est invité à participer. La Bible, c'est pas juste des principes. C'est pas juste des instructions. C'est pas juste des commandements. C'est pas juste des lois. C'est bien plus que là, bien plus que cela. La Bible, c'est notre histoire, c'est une histoire où la rédemption et la grâce donnent place à des personnes à qui on ne donne pas forcément de la place. Et l'auteur de cette histoire nous invite à ce récit-là. Ce n'est pas simplement des principes, mais une histoire. Enfin, je vais conclure par les versets 28 à 35. Ce n'est pas simplement une pratique, mais c'est aussi une intimité. Lisez avec moi le verset 28 à 29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Alors, après avoir fini leur marche, après avoir fini la session d'études bibliques personnalisées avec Jésus, les disciples demandent à Jésus de rester avec eux. Pourquoi ? Certainement parce qu'ils en voulaient plus. Parce que Dieu nous attire à lui lorsque l'on l'écoute. Vous savez, pendant mon message, pendant ce sermon, je pourrais vous dire ce qu'on m'a toujours dit quand j'ai grandi. Lis ta Bible et tu seras un bon chrétien. Si tu lis pas ta Bible, t'es pas un bon chrétien. Alors lis ta Bible. C'est une caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais s'il y a une seule chose que vous devez retenir de ce message, de ce sermon, c'est la chose suivante. La lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, doit être une pratique que l'on exerce. Pas pour dire que ça fait partie de nos habitudes, pour dire que je suis un bon chrétien, je lis ma Bible, mais ça doit faire partie de nos habitudes pour que l'on puisse développer une relation, une intimité avec le Créateur de l'univers. Une relation qui est profonde, intime, sincère, honnête, authentique et belle. Le seul réseau social auquel je suis actif, on va dire, c'est Instagram. Et je suis majoritairement des comptes de nourriture. Ça ne doit pas vous étonner. Je suis sûr qu'il y en a plein qui parmi vous vous faites aussi. Et trop souvent, quand je vois ces photos sur Instagram, ça me donne envie. Et qu'est-ce que je fais ? En fait, parfois, ça me donne tellement envie que, en fait, c'est tout simple. Je vais au resto pour tester ces plats. Je vois que je suis pas le seul dans la salle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je le fais, je demande toujours à un ami ou une amie d'y aller avec moi. Et je suis toujours content de pouvoir tester ce repas, ce plat, ce restaurant. Mais le but final de cette démarche, c'est simplement de passer du temps avec cette personne-là. C'est pas forcément juste pour manger le plat parce que je pourrais le faire tout seul. C'est vraiment de pouvoir développer une relation avec cet ami. Le but, la puissance et la beauté de la lecture de la parole, je le répète, le but, la puissance et la beauté de la parole, de la lecture de la parole de Dieu, c'est quoi ? c'est de pouvoir devenir intime avec le Créateur de l'univers. Son auteur nous y raconte son histoire. Il y révèle son projet de rédemption. Et il nous invite à y jouer un rôle. Est-ce étonnant de lire au verset 31 et 32 la chose suivante ? Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Le cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? La parole de Dieu fait vibrer les cœurs parce qu'on y lit la plus belle histoire d'amour. Et au-delà de cela, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait que l'on peut lire cette histoire d'amour, c'est que l'on peut la vivre et l'expérimenter nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tombe amoureux ? Versets 33-35. Ils se levèrent à ce moment même, et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les disciples racontèrent ce qu'il leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Quand on est amoureux, non seulement nos cœurs brûlent pour la personne pour laquelle on est amoureux, mais on veut que le monde entier le sache. N'est-ce pas? Ma prière pour vous, c'est que vos cœurs brûlent également pour le Seigneur, en vous, lorsque vous ouvrez ce livre. C'est ma prière pour vous cet après-midi. C'est pas un simple livre qui nous dit quoi faire, comment vivre, mais qui nous aide à vivre une histoire d'amour. En espérant que vous-même, un jour, vous puissiez aussi également dire que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont aussi douces que le miel à ma bouche. Comme David nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est Noël. Noël, c'est quoi ? C'est la parole, le logos, le verbe incarné qui est descendu sur terre. Le Dieu vivant, incarné en homme, pour venir nous inviter à vivre cette relation avec lui. Que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Prie avec moi. Seigneur, trop souvent on est des Cléopas. On connaît les choses, on sait les choses, on sait ce qui se passe, on connaît ta parole, on apprend par cœur des versets bibliques. Et pourtant, on a les yeux fermés, on est aveuglés. On te voit pas, on te reconnaît pas. Et je te demande pardon pour ça. Illumine nos esprits lorsque l'on ouvre ta parole. Aide-nous à voir que c'est pas simplement des principes. C'est pas juste des recommandations. Mais c'est une histoire dans laquelle tu nous invites à vivre, à participer. C'est une intimité, c'est une relation à laquelle tu nous invites à prendre part. Et je te demande pour toutes les personnes présentes dans cette assemblée qui ont du mal à ouvrir ta parole, à lire ta parole, Seigneur. Aide-les à voir que c'est bon de passer du temps avec toi, que non seulement c'est bénéfique, mais c'est beau, que ta parole regorge de richesses, de profondeurs qui sont nécessaires pour notre âme, pour notre esprit, Seigneur. Et je te demande vraiment je te prie pour ces personnes-là. Je te prie pour les autres personnes qui sont fidèles à ta parole, de les aider, de les encourager, d'être fidèles à ce qu'ils font, qu'ils puissent être constamment être renouvelés, transformés, encouragés, édifiés, qu'ils puissent croître et grandir en toi à travers ta parole, Seigneur. Et je te demande vraiment que l'on puisse voir que c'est bon de goûter à tes paroles, Seigneur. Mais je te demande que tu puisses entendre ma prière, l'exaucer. Et je te demande toutes ces choses au nom de Christ. Amen.